saine cause, du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour, eh bien je continue, hein. J'avais dit applaudissements et clopinettes du gouvernement relatif à cette fameuse conférence nationale syndicat-gouvernement à propos de la santé suite au confinement, au post-confinement de l'épidémie de Covid-19. Donc, conférence nationale avec les syndicats. Bon, les syndicats dits réformistes ont signé. Ils ont signé pour des clopinettes du gouvernement sous les applaudissements du gouvernement. Et donc là, cette suite, ce serait plutôt comment on dépouille le système public au profit du privé et des grandes banques anglo-américaines qui investissent massivement dans nos cliniques. C'est pas nos cliniques, c'est des cliniques du privé pour faire du pognon privé. Et l'hôpital malade de la concurrence acharnée que le privé lui mène jusqu'à sa destruction. La nature nous soigne et nous on la dévore. Qui la dévore ? Une commune au plan local peut faire énormément de choses pour la bonne santé. Elle peut se battre aussi pour défendre son hôpital. Hein ? Donc on était dans la politique spectacle de la signature du Ségur où il n'y a rien vraiment quant aux réformes de structure. On dit qu'on est en train de les engager. Mais les ARS renforcent encore leur pression sur les hôpitaux pour contrôler tatillonnement qu'on supprime des lits, qu'on fait plus de déambulation. Eh bien, mes amis, moi, j'ai été à Chambéry, opéré d'un ligament droit du genou. Voilà, je vous le disais dans une précédente émission. Je suis opéré à 13 heures. Je devais être opéré à midi, mais il y a une heure d'embouteillage devant la salle d'op. Je ne sais pas, il y a dû y avoir un gros souci. J'ai discuté avec le professeur, adorable, sympa. J'espère bien qu'il va me rendre la visite, que je me rende mon invitation. Et nickel, l'opération après un peu de rééducation. Nickel, pas du tout. En descendant, l'opération nickel, mais en descendant. Ah, pardon, eh bien 14h30, dégagé. Ça s'appelle la médecine déambulatoire. Ça veut dire que vous dégagez, parce qu'il y a paiement à l'acte. Si vous restez, vous bouffez un lit. Non, il faut que les actes se succèdent. C'est une usine à soins. Ça n'est plus du tout la médecine jadis, où moi j'ai emmené une vingtaine de bouquins, je restais 4-5 jours, heureux comme un pape dans mon lit. Alors même si je souffre un peu, moi je suis un peu tolérant à la souffrance, j'ai une vieille habitude de la guerre. Et bien du coup, Tintin, j'ai pris mes bouquins, ben oui, à dégager. Je suis resté hospitalisé de 7h du matin, il fallait être là à 7h, donc il fallait se lever à 6h. Ah, on vous opère à midi, pour être sympa de nous faire venir à 9h, mais bon. Mais c'est la bureaucratie qui décide de ça. On vous opère, mais une heure, même pas une heure après l'opération, vous dégagez. Et vous dégagez comment ? Je parle de Chambéry. Personne pour vous accompagner. Personne pour vous prêter des béquilles. Personne pour avoir un fauteuil roulant. Personne. Du deuxième au rez-de-chaussée et à l'ambulance, personne a dégagé. D'accord, c'était pas une opération ouverte du genou, c'était une arthroscopie. Ah mais attendez, j'avais un genou gros comme un éléphant, et ça me faisait très mal. Eh ben, toute la merde. Donc j'ai rasé les murs, je me suis cramponné au mur, j'avais rien. Donc j'ai dû poser le pied, évidemment. 2 semaines de rééducation de plus, parce que j'ai fait, ça a fragilisé la chose, quoi. Voilà. Bah, je suis opéré, j'ai eu une hernie ventrale. Hein. Je suis opéré par le professeur M à Lyon Pardieu. Très bien, très bon professeur. Et je suis opéré pareil à 11h. Bah, à 13h, 15h. Là, c'est le 15h. On me dit dégager. Dégager, j'ai personne. Personne pour m'accompagner jusqu'à, pas l'ambulance, parce que je devais rentrer par mes propres moyens. Là, j'ai un peu gueulé. On m'a quand même mis un truc pour m'accompagner jusqu'à la gare. Mais ça craint. Donc, il fallait que j'aie quelqu'un qui aille me chercher à la gare de Lépin. C'était au temps où il y avait des trains. Je suis à Voiron. J'ai eu un accident de bagnole il y a 5 ans. L'airbag a explosé. Enfin bon, était trop vieux ou pas été vérifié, j'en sais rien. Je me retrouve avec le volant dans les côtes, une côte brisée. Enfin bref, je suis aux urgences. Ben là, on m'enfile un espèce de truc où on voit les fesses. Pas de chaussons, pieds nus pour aller pisser. Une radio, on me dit, on peut pas l'interpréter, elle est trop floue, c'est un appareil qui date des années 50. Très bien, très bien. Après, au moment de sortir, on me dit, ben, on sait pas où sont vos vêtements. On me trouve un moment pour trouver mes vêtements. Donc, je n'ai droit ni à un casse-croûte, ni à un verre d'eau, ni à des chaussons. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'arrive à midi, je repars à 6 heures, j'ai rien eu. Une radio ininterprétable dont j'ai jamais reçu les résultats. Mais l'état de santé de notre pays, rien que si je vous raconte ma vie, c'est quand même hallucinant. Voilà. On aurait peut-être été mieux traité en clinique, mais c'eût été peut-être un peu plus cher. Donc, on assiste au Ségur, 182 € sur les 300 minimums réclamés. Et puis, en réforme de structure, où sont les hôpitaux comme à Grenoble, que j'ai connu quand j'ai eu mon hépatite, à l'hôpital, le grand hôpital de Grenoble, à l'est, là, dans la vallée du Grésivaudan, des Sablons, le fameux hôpital des Sablons. J'étais donc dans le pavillon des cancéreux du foie et des affections du foie, avec un professeur, bon, il est mort, le professeur Fournet. Et merveilleux cet homme-là. Lui, il faisait toutes les semaines une réunion d'une heure payée, à la fois pour les pousse-balais, ceux qu'on appelle de façon méprisante les pousse-balais. Je le fais avec des guillemets, naturellement, c'est-à-dire les personnels de... Voilà. Et pour déterminer les meilleures techniques pour désinfecter, tenir propre, pour éviter les maladies nosocomiales, c'est-à-dire ces fameux streptocoques et autres, qui, à force qu'on prenne des antibiotiques, on en met dans le bétail qu'on mange, dans tous les élevages industriels, finit par être résistant aux antibiotiques naturels et vont finir par nous faire des amputations en masse en France parce qu'on n'aura plus les antibiotiques pour arrêter les infections. On fera comme le 19e, on cirera le membre infecté. C'est ce que dit Arte en tout cas dans une émission sensationnelle sur les antibiotiques. Tapez Arte TV et vous regardez antibiotiques. Eh bien, à l'hôpital des Sablons, à cette époque-là, je te parle il y a plus de 50 ans, hein, vous aviez un chef de service qui faisait des réunions chaque semaine de tout le personnel pour, un, la santé environnementale de l'hôpital, le bien-être des patients. J'ai passé un mois, bon c'est vrai il faisait chaud, c'est vrai que j'étais pas en bon état, le foie détruit à 85%, mais au moins j'ai eu affaire à un endroit humain et un vrai hôpital. Et j'ai pu lire tous les livres, ou presque, bon je dormais beaucoup, mais j'ai pu lire, voilà. Il y a un seul problème, c'est que le grand chef, puisque le professeur F. Fournet était adjoint, le grand chef est arrivé avec son équipe. Alors là, c'était hyper hiérarchique. Hein. Le chef, le sous-chef, les internes, l'infirmière en chef, et peut-être bien une infirmière qui suivait. Ça faisait un aéropage, 17 personnes. Il s'approche de mon lit, il regarde les indications, le dossier. Ah, dit le grand professeur, voilà un cas mortel. Ah, moi, c'était sympa d'entendre ça, vous voyez, la délicatesse psychologique du grand professeur qui vient voir son malade et lui dit « c'est un cas mortel ». Voilà, c'est lui qui gagnait le plus. Et pour la psychologie, ben, franchement, il aurait mérité un retrait de salaire. Donc, mes expériences d'hôpital, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le Ségur? Eh bien, on est avec 180 €, ça permet juste de rattraper la perte de pouvoir d'achat accumulée depuis 2010. C'est pas un cadeau ou une augmentation, rien. C'est un rattrapage des pertes des pouvoirs d'achat de nos infirmiers, aides-soignantes et, entre guillemets, pousse-balais des hôpitaux, personnel de service, secrétariat, accueil, accumulé depuis 2010 du fait du blocage des salaires dans la fonction publique. C'est aucun cadeau, c'est juste que la fonction publique, depuis 2010, on a bloqué les indices, il n'y a plus aucune augmentation, et donc, comme il y a une élévation du coût de la vie, eh ben vous perdez de l'argent, puisque si le kilo de tomates bio est à 8 €, allez, on va pas dire où en pleine production, hein, on va dire la vie claire, ou à 7 €, si vous prenez des variétés anciennes, hein, vous pouvez en avoir à 3,50 €, 4 €, mais alors, ces tomates en grappe, celles dont je vous parlais, des hybrides, où je joue au foot pendant 3 semaines avec... Eh bien, bien qu'elle soit bio, c'est la même variété, il n'y a pas de nutriments, et vous jouez au foot 3 semaines, elle est toujours raide est bien belle et lustrée dans son bac. De la merde, mais biologique. Alors, là, vous voyez, vous avez 3%, en tout cas pour ce qui est du volet emploi, c'est-à-dire les embauches. Parce que vous avez eu, on a des respirateurs des fois, mais on n'a pas le personnel en face. Là, il y a une crise du personnel en hôpital. Eh bien, on a embauché 3% des demandes faites. 3%. On veut 100 infirmiers de plus, on vous en donne 3. C'est sympa. Rien sur les fermetures de lits. On laisse ouvert la possibilité de continuer à fermer des lits. D'ailleurs, un directeur de l'ARS de Vermulouse, là-bas, où la pandémie a fait qu'un certain nombre de gens sont morts parce qu'on ne pouvait pas les soigner, excusez, eh bien, lui, il veut continuer de fermer des lits. Il a vraiment compris que la nouvelle épidémie, qui ne sera pas le coronavirus, mais sera infiniment plus grave, on n'aura plus de lits. France, 2500 lits équipés de respirateurs. Allemagne, il y en avait quasiment 10 fois plus. 2500 lits pour un pays de 67 millions d'habitants. On a raclé à l'os l'hôpital. Voilà les politiques libérales. Pour une raison très simple, je vous ai dit tout à l'heure, favoriser les cliniques aux mains des multinationales et des investisseurs anglo-américains. Voilà. Donc, 3% de ce qui est demandé. Rien sur les fermetures de lits. 2500 respirateurs. Maintenant, on en a 5000. Hein. Oh, c'est un gros progrès, c'est quand même doublé. Hein. Ouais, mais enfin, l'Allemagne en a 20 000 ou 25 000, je ne sais plus. Les Russes en ont 5 fois plus que nous. Les Russes qui sont loin d'être aussi riches. La Russie n'est pas du tout à notre niveau de vie des Français. Hein. C'est, nous, on est 6e puissance mondiale. Les Russes, je ne sais pas combien, 8e, 9e, 10e. Ça craint. Alors, le 14 juillet, il y a eu une manif. Hein, mais je crois que ça a posé quelques problèmes. Donc, Ma Santé 22, pour la récente loi, va apporter des réponses inadéquates. Il s'agit que de la continuité de la politique libérale mise en place depuis les ordonnances Juppé de 95. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on refasse en France. C'est manif contre la réforme de la Sécu Juppé en 95 a quand même fait plier Chirac, président de la République, qui a dit on retire le projet. Vous rendez compte ? Des millions de personnes ont fait grève, des millions de personnes n'ont pas pris les transports qui étaient en grève, des millions de personnes sont rendues à leur boulot en marchant 6 km à pied ou à vélo, dans la neige, dans la boue, c'était en décembre. Eh bien, on a gagné, c'est ça qu'il faut refaire. On ne pourra pas gagner sans créer un rapport de force et aller aux manifs. Hein, j'ai reçu donc cette infirmière, des gens de Chambéry très sympas, hein, qui avaient écouté un peu nos émissions. Ça me fait plaisir de voir que, allez, je commence à avoir des coups de fil, quelques retours. Eh bien, vous savez, il faut 5 ans hein, pour des petites radios locales, en podcast, vous soyez un peu écoutés. En espérant que ce que je raconte soit toujours dans les faits réels du réel. Je ne fais pas de spéculation hasardeuse. Si je dis que ça ne va pas avec le capitalisme, j'apporte des preuves. Des preuves à profusion, à millions, dans tous les domaines, que ce soit de la nature, de la société, de l'économie, de la sociologie, de la culture. Chaque fois, c'est précis. Là, je vais vous parler d'une autre relance. C'est possible que leur relance industrielle, l'ancien système. Voilà. Il faut bien comprendre que ce qui coûte cher dans notre système de santé actuel et le rend complexe et peu efficient, elle maintient de cette mixité publique-privée. Je vous ai parlé des cliniques qui bouffent 40% du marché. Et bien voilà, tant au niveau de son organisation que de son financement, l'hôpital, c'est le maintien d'un système public-privé qui bouffe tout. Peut-être que pour l'école, c'est un peu différent, mais là, c'est catastrophique. Il faut en finir avec la privatisation du soin, avec la privatisation de la nature, avec la privatisation de la santé, la privatisation de l'éducation. Partout s'avance la privatisation. Ça se comprend, chers amis. Nous sommes en vacances, soyons joyeux. Quand même, hein, le marché mondial de la santé, c'est 7000 milliards de dollars. Comment vous voulez pas vous jeter sur une telle manne ? Si vous avez des cliniques qui peuvent ramasser du pognon en faisant de l'acte, en faisant payer la bouteille d'eau minérale 4 euros, Et en faisant des petits à côté qui vont vous permettre d'avoir une chambre payante, avec un grand confort payant, avec des prestations payantes. C'est la même chose que d'avoir laissé privatiser sans bouger. D'ailleurs, j'en veux au personnel, parce que je voulais faire du débat avec eux. Hein, la CGT, aussi bien que FO, ils n'ont rien fait contre la privatisation des thermes Chevalet. C'était le seul terme national de France à Aix-les-Bains. Il y a eu jusqu'à 50 000 curistes par an là-dedans. C'était merveilleux, c'était bien, c'était super. Eh ben, on a laissé privatiser. Le maire, qui a été blackboulé aux élections, heureusement, lui a vendu ça pour 1 million d'euros, les vieilles thermes. Mais ça a coûté 100 millions d'euros à l'État. Mais vous rendez compte, cette braderie au privé de choses que nous avons payées, nous, génération après génération. Ces thermes étaient une propriété d'État, c'est-à-dire notre propriété, comme les communaux de votre commune sont vos terrains. Hein, quand vous avez une forêt communale à Saint-Pierre-de-Machin, excusez-moi, cette forêt, elle appartient à tous les habitants. Donc c'est à eux de décider qu'est-ce qu'on fait de la forêt. Si le maire veut la vendre pour faire du pognon, non, il faut, en concertation avec l'Office national des forêts et avec, bien sûr, les propriétaires de ces forêts, il faut essayer de discuter, de savoir qu'est-ce qu'on maintient dans la forêt. Est-ce qu'on a toujours le droit des coupes de bois, mais en laissant les plus belles essences et en faisant une coupe durable, en coupant juste ce qui permet à la forêt de vivre pour faire du bois de chauffe éventuellement, mais pas couper rase comme on a fait à Tignan-Saint, à tour de bras, à Tignan-Saint, coupe rase. On voit des gros cailloux blancs qui sont tombés de la montagne, c'est à pleurer de désespoir, car la forêt protège notre santé. Et vous voyez que je m'éloigne jamais de mon sujet, même si je fais des digressions pour vous montrer que c'est une pensée systémique. C'est tout un système qui est à revoir. C'est toute une civilisation du pognon, dite occidentale libérale, qui a infiltré toutes nos vies et qui tue nos vies. Qui tue nos vies, puisqu'il faut courir de plus en plus vite, il faut travailler de plus en plus intensément, il faut faire appel à un ordinateur pour pouvoir payer sans impôts. Tout est de plus en plus compliqué, mauvais à vivre, au lieu de la belle vie que dans les années 60 ou 70, on pouvait avoir. Attention, hein, les femmes étaient beaucoup plus exploitées, les ouvriers aussi, mais je ne crois pas qu'on soit plus exploité chez les ouvriers à l'époque que maintenant, puisque les syndicats étaient puissants et on voyait paître, il y avait des manifs, on savait se battre contre l'État et contre les gros employeurs. Il y avait un rapport de force. Aujourd'hui, c'est les puissants qui dominent tout, qui décident que les masques seront à 95 centimes. Mais c'est hallucinant, alors que c'est obligatoire de les porter dans tous les espaces confinés, qu'ils soient publics ou privés. Attends, mais si tu rends obligatoire, ben tu fais comme pour l'école, tu fais gratuit. Et là, donc, c'est pas à la hauteur le Ségur. Applaudissements du président, clopinette du gouvernement. Clopinette. Nous pouvons en rester là, donc action le 14 juillet, et il va falloir continuer les actions. Donc il y aura une grosse action, je crois, le 17 septembre, à Chambéry, à la rentrée, et à Chambéry ailleurs. Il faut bien comprendre que ce qui coûte cher, donc, à nos systèmes de santé, c'est la dualité clinique-hôpital, public-privé, infirmière-public-infirmière-privé. Voilà, pour les privés, chacun cherchant la course au pognon. Alors, je dis pas ça de toutes les infirmières privées. J'en ai une merveilleuse, de très sympa. Mais en gros, voilà où on en est. Donc, je termine là-dessus. Que tout un chacun puisse pouvoir consulter un médecin dans la journée en cas de besoin et d'avoir accès à un hôpital avec un lit dans un délai maximum de 30 minutes. Il ne faut pas supprimer les hôpitaux de proximité. Cela passe par l'élimination de toute activité privée lucrative dans les activités sanitaires et sociales. Il faut arrêter avec le lucratif privé. Hein, je sais bien que maintenant, il y a de plus en plus... Alors, vous venez à Lépin, hein, vous avez Magali, vous allez embrasser un arbre, vous allez faire 10 minutes de méditation et vous promenez au bord du lac pour 30 euros par personne. Il faut arrêter les activités privées lucratives, il y en a plein pour le bien-être. Bon, ça s'adresse à des bobos qui viennent de Lyon, qui sont stressés, qui ont 4000 euros par mois, ou 5000, ou 7000, à force d'exploiter les autres, de les emmerder, de les dominer, de les exploiter, ou les médecins qui ont 15000, en travaillant en clinique, qui viennent se ressourcer, comme on dit, le ressourcement. Il y en a des petits malins qui leur proposent donc des activités de ressourcement, de reconnexion, c'est pas à la nature, mais non, reconnectons-nous à la nature en nous battant pour que nos communes aient des régies publiques alimentaires, pour qu'on garde nos espaces verts, nos forêts, que les terrains publics restent publics, qu'on arrête de faire des lotissements, qu'on densifie les centres-villes, qu'on fasse peut-être ce qu'a fait une commune que je voudrais bien vous citer pour terminer, parce qu'il faut toujours voir qu'il y a à la fois un truc abominable, parce que je dénonce ici les tendances au pognon, mais qu'il y a aussi beaucoup de bagarres. Il y a un village qui a créé sa réserve foncière pour éviter la désertification. Ouais, bon, je vais vous en parler, mais avant, je veux rendre hommage aux communes de Chartreuse, pas trop les mettre en avant, mais quand même, qui ont mis une préemption quand les particuliers veulent vendre de la terre agricole à plus de 1 euro. Il y a préemption immédiate du public. Eh bien, regardez, Alou en Charente est une terre d'élevage éloignée des villes. Pour ne pas laisser les prairies tomber dans le giron de l'industrie céréalière, une coopérative assure la transition entre les départs à la retraite et l'installation de nouveaux paysans. Un village a créé, avec les habitants, sa propre réserve frontière. Bon, je vous ai déjà parlé de Moinsartou, lui, c'est une ville de 10 000 habitants, près de Cannes, à 400 euros le mètre carré. Eux, ils n'ont pas eu peur, ils ont récupéré des hectares et des hectares. Ils ont même déclassifié une zone qui devait être en lotissement pour la remettre en terre agricole. Vous voyez la gueule des propriétaires. Hein, 400 euros, si vous avez 1000 mètres carrés, ben 1000 fois 400... Hein, si vous avez 1000 mètres carrés à 400 euros, 400 000. Mais si vous avez un hectare, 10 000 mètres euros, 4 millions. Ben, il y en a qui avaient un hectare, ils ont eu passé sous leur nez 4 millions. Et c'était foudrage contre le maire qui a déclassifié des terres constructibles en terres agricoles. Et ben maintenant, ils ont une régie publique municipale agricole qui fait des repas coût matière à 1,82, 100% bio depuis presque 10 ans. les serres, les enfants viennent travailler, les lycéens, les collégiens viennent apprendre. Et plein d'autres agriculteurs sont venus s'installer dans la périphérie de la ville. C'est le pire endroit pour l'expansion, parce que là-bas, moins de mètres carrés vaut de l'or, on construit partout, les gens veulent passer leur retraite pas loin de la Méditerranée, moi, on sort tous, c'est près de Cannes. Eh bien, vous voyez, un maire. Il n'y a même pas une grande démocratie, une petite participation des habitants. Mais je préfère un maire qui, comme le maire de Lépin pendant 20 ans, là, a fait un vrai village, a essayé de protéger le lac, a essayé de se battre pour qu'il y ait un égout circulaire. Je préfère un vrai maire qui se bagarre pendant, ou alors comme près de la Drôme en allant vers les Hautes-Alpes. Ce fameux village dont je vous ai déjà parlé, où vous avez une pièce d'eau, un vrai lac gratuit, avec l'acrobranche gratuit, avec un petit truc pour manger, le café à 1 €. Il y a des endroits extraordinaires où des maires sont battus pendant 30 ans pour le bien-être de leur population ouvrière populaire. Comme à Lépin, mais maintenant, les nouveaux élus, depuis l'élu socialiste, ensuite la mairesse, ensuite les nouveaux élus, eux, ils se battent pour détruire ce qu'ont fait les anciens, toutes les belles prairies. Eh bien, ici, à Moinsartou, il a stocké des hectares, il a installé des serres, il a installé au moins 1 500 € le maraîcher, parce qu'un maraîcher, il fait 1 500 €. Si vous m'en trouvez un, vous venez me l'amener, je lui offre ma maison, que j'ai pas fini de payer. Mais ça fait rien, je lui offre aussi les dettes. Et en clair, vous avez de quoi, quand vous êtes une commune de 10 000 habitants, installer. Pourquoi partout on ne fait pas ce que fait Saint-Pierre-d'Entremont, ce que fait Moinsartou, à savoir une politique foncière de préservation du foncier, qui essaye de faire du lin, de préserver le foncier, de ne pas faire de lotissement, de ne pas accorder au PLU des terres nouvelles constructibles, tout au rebours de Saint-Alban de Montebel. Regardez l'horreur, mettez-vous sur le lac, regardez Saint-Alban. Il y a une saignée d'un nouveau lotissement qui bouffe toute la colline. Jadis, quand je venais me baigner, c'était tout en forêt, ça protégeait l'eau du lac et ça nous permettait à nos enfants de boire de la bonne eau. Là, ça va être quoi? De l'eau de ruissellement pleine de saloperies qui va arriver direct dans le lac. Et puis le réchauffement climatique, la réflexion du soleil sur des surfaces bétonnées de goudron. C'est une horreur et c'est définitif. Une fois qu'on a coulé le goudron, c'est pour 100 000 ans. Une fois qu'on a mis le béton, c'est pour 1 siècle. Le béton, après, il se désagrège, puis la ferraille, tout ça, ça rouille et les arbres poussent dedans. Mais franchement, un beau lac comme ça, on le tue. En Chartreuse, on tue plein de paysages. Regardez un peu ce qui s'est passé avec tous les 3 kilomètres, une zone d'activité industrielle. Il fallait tout densifier ça et garder de l'agriculture, de fond de vallée comme il y avait avant, du bon seigle, des bonnes vaches, des bonnes chèvres, de quoi manger. Voilà, je vous remercie. C'était la politique de Macron en matière de santé, les applaudissements du président et les clopinettes du gouvernement, une politique spectacle, des syndicats qui signent des trucs qui sont complètement contraires aux intérêts profonds des personnels hospitaliers, un hôpital en proie à la concurrence avec le privé, abondé ce privé par des grandes banques anglo-américaines qui possèdent pratiquement 80% de nos 40% de cliniques, hein, sur 100 établissements de soins, je répète, il y a 40 cliniques. Ces 40 cliniques étant en main de fonds de pension ou surtout de banques anglo-américaines, voilà, et ben ceux-là, ils vont tout avoir intérêt à dégommer la Sécu, donc à faire que les retraites tombent dans leur bec. Que les retraites tombent dans leur bec. Hein, BlackRock, 7 000 milliards de capitalisation. 7 000 milliards, 3 fois le PIB de la France, 3 fois plus puissant financièrement que la France. Ce fonds de pension géant, BlackRock, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut que les retraites deviennent, non pas par cotisation et répartition, mais viennent par points et par cotisation, comment on peut appeler ça, c'est pas une cotisation, par, vous prenez votre retraite comme vous prenez une assurance vie, quoi. Et comme ça, plus vous cotisez, plus vous avez des points, plus vous avez des points, plus vous avez une bonne retraite. Voilà, donc ceux qui ont déjà du pognon vont avoir une bonne retraite, et ceux qui ont rien, ils auront rien. Surtout que ça va être ingérable, ce système. Et qui est-ce qui va assurer ces retraites? Qui est-ce qui va mettre la main dessus, de ce fait? Où vont aller cet argent qui va être cotisé? Il ne va pas aller à la Sécu qui le redistribue. Hein, quand vous cotisez pour la Sécu, eh ben ça va à ceux qui sont à la retraite, direct. ça paye le retraite, point. Donc, il n'y a pas d'argent, ça circule direct. Mais si vous cotisez par point à un fonds de pension, eh ben celui-là vous garde l'argent. Et comme Enron a fait faillite aux États-Unis, les gens ont perdu un tiers de leur retraite. Voilà ce que c'est que le capitalisme. C'est le risque, en cas d'effondrement, que votre retraite dégringole. Ça, c'était un tiers. C'était un effondrement ou une faillite limitée, recapitalisée par le système. Mais imaginez que tout le système s'effondre. Bah, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, comme ceux qui ont mis des milliards dans les banques en 1920 lors du crash, qui se sont retrouvés avec quelques dizaines de milliers. Voilà. Eh bien, tant mieux pour ceux qui ont du pognon, qui perdent leur pognon, mais parce qu'ils l'ont souvent gagné sur le dos des autres. Mais ce serait tristounet quand même que quelqu'un qui a cotisé pour avoir sa petite retraite à 800 euros, ben il a une retraite comme en Grèce de 800 moins 30 ou 40%, c'est-à-dire de 500 euros. Car je vous rappelle qu'en Grèce, le système fait que les retraites ont perdu 40% de leur versement. Eh bien, sur ces très bonnes nouvelles, passez de bonnes vacances. Voyons-nous, car il est temps de se remuer à la rentrée, donc on va prendre des forces. On en a bien besoin, moi le premier. Moi je trouve mes forces dans le jardin. Et un jardin qui est une base arrière d'échange et de militance, où on se ressource pour partir à l'assaut d'un système qui nous dépoile. Voilà, applaudissements du président et clopinette du gouvernement. C'était notre émission « Comment on soigne les gens ». Et, bien sûr, petites allusions latérales, que c'est la nature qui nous soigne. On ne sera jamais mieux soigné que par la nature. Je ne dis pas si on se casse une guibole, encore que. Les civilisations primitives, ça allait très bien remettre les fractures. On a même vu des civilisations d'il y a 30 000 ans faire de la trépanation. Vous vous rendez compte? Ils savaient trépaner. Bon, je ne vous raconte pas la souffrance du mec qui était trépané, mais ils avaient réussi à réparer des accidents cérébraux. L'homme a toujours été intelligent, a toujours trouvé dans la nature de quoi y puiser. Eh bien, cette mère nature, nous sommes en train de la bouffer, de la dévorer. Et quand je dis nous, non, pas nous. Ceux qui ont les milliards, 500 personnes en France pèsent l'équivalent du tiers du produit intérieur brut de la France. 10 fois plus de ce qu'ils pesaient en 96. 96, 2020, combien d'années? Allez, 90, 2020, 30 ans. Là, 24 ans. 24 ans, les plus riches le sont 10 fois plus qu'il y a 20 et quelques années. Vous rendez compte? 10 fois plus riches. Les 500 premières de France ne sont pas effondrées pendant les coronavirus. Au contraire, ils ont gagné de l'argent pendant le corona. Hallucinant. Et ils en sont à 730 milliards, les 500 premières formules. Hein, à commencer par Bernard Arnault, le PDG du luxe, LVMH, celui que, il s'est engagé à garder les tissages, les fameux tissages Boussac, les 30 000 employés de tissage Boussac dans les Vosges, qui s'en souviennent très bien, il a tous licencié. Il a acheté pour rien du tout, parce que l'État lui a dit, on vous le file, mais vous nous gardez les emplois. Oui. Et 30 000 types dehors, qui vivent la misère. Je suis allé dans les vallées vosgiennes, c'est à pleurer. Quoi. Il y a que les corbeaux volent sur le dos pour ne pas la voir, la misère. Donc là, vous avez, vous rendez compte, vous avez 730 milliards entre les mains de 500 personnes en France. La France compte 702 000 personnes, à valeur nette élevée de plus 11%. Des personnes qui gagnent un pognon de dingue. 700 000 personnes qui gagnent un pognon de dingue. 2 800 000 millionnaires. Tapez combien de millionnaires en France? 2 800 000 qui ont plus d'1 million d'euros d'actifs. Soit liquidité, soit actions, soit propriété. Ben c'est à pleurer. Voilà. Et les autres, voilà, que leur vie soit la plus belle possible, hein. Mais la nôtre aussi. Donc, c'est bien clair que c'est en reprenant pouvoir sur la puissance privée, sans fusiller personne, sans faire de mal à personne, mais en étant très nombreux dans les manifs, à 4 millions de personnes, je crois qu'on mettait fin au système de la 5e et qu'on faisait des référendums d'initiative républicaine à Paris. Et là, s'il n'y en avait que 300 000, 400 000. Voilà. C'est clair, c'est net. Vous voyez, en Algérie, ils se mettent des millions dans les rues. Vous voyez, au Chili, ils sont des millions dans les rues. Vous voyez, au Soudan, ils ont changé de gouvernement avec des millions dans les rues. Nous ne pouvons changer de gouvernement et en fortiori changer de système économique que si nous nous émettons tous. On peut commencer par le bas, protéger les terres agricoles, préemption, etc., ce que je vous ai dit. On peut aussi faire au niveau de l'État français, et j'en ai dit deux, trois mots, peut-être qu'on pourrait aussi reprendre en main nos frontières. Non pas pour interdire les immigrés d'arriver, on en a besoin et ils ont besoin de nous et on est solidaires avec les plus pauvres, mais surtout pour mettre des taxes qui nous permettraient de développer partout du petit artisanat, de la petite et moyenne entreprise, des serres, du maraîchage et cesser d'importer 6 légumes sur 10 la France. 6 légumes sur 10, 6 fruits sur 10. Stop. Et ben bonnes vacances.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.